le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour, vous écoutez France Culture, Jean-Luc Gadreau avec vous pour le service protestant en ce deuxième dimanche de l'Avent. Nous aurons le plaisir d'entendre tout à l'heure Marie-Laure Fenet, pasteur de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France à Sartrouville, en région parisienne. Vous l'aviez découvert la semaine dernière, je parle bien sûr de la chronique qui nous accompagnera pendant tout le temps de l'Avent. Elle est signée de Vincent Smetana, artiste et secrétaire général de la Société biblique francophone de Belgique. Avant, pendant et après. Et puis quoi encore, Vincent Smetana ?
Et le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me prépare pour toi et je t'attends. Psaume 5, attendre, verbe transitif, patienter jusqu'à ce que quelque chose se produise. Compter sur la venue de quelqu'un, sur l'arrivée de quelque chose. Être préparé pour quelqu'un et peut-être même lui être destiné. Ce temps de l'Avent, est-ce que ça ne serait pas aussi un temps différent de l'attente, un rythme autre pour nos murmures et nos prières et de notre cœur le battement, une sorte de cheminement nouveau sur le territoire étonnant de l'attente et de la patience. La patience, cette chose étrange qui dans le déroulé de notre quotidien est devenue une valeur surréaliste. Être patient le plus souvent c'est extrêmement exigeant pour ne pas dire infaisable ou impossible. Comment choisir ce geste un peu saugrenu de se glisser à cheval sur les aiguilles de l'horloge pour tenter de contrer le mouvement entêtant et têtu des rouages du temps? Être patient ou comment apprendre à ralentir notre perception des choses et goûter nouvellement à l'attente? Et si l'Avent c'était ça aussi? Une façon de se préparer autrement pour enfin comprendre pleinement la patience, à cette seule raison qu'elle nous prépare à l'amplitude de l'espérance qui viendra s'épanouir à la fin de l'Avent et après l'Avent. Alors tout ça c'est très bien, mais pour être honnête, oui, je dois bien avouer que je me demande par exemple toujours pourquoi tout le monde, tous les gens, la foule se sent toujours obligée de se conformer à un rythme formaté sur les horaires de lever et de coucher du soleil, d'ouverture et de fermeture des magasins, des cabinets de médecins, des crèches et des piscines. Pourquoi on se retrouve tous toujours au même endroit, au même moment, avec des gros caddies dans la file de l'épicerie, du supermarché ou du boulanger du coin, à 19h17 le soir? Pourquoi la foule est toujours dans la file à cette heure-là pour démarrer les premiers achats de Noël, du papier coloré avec des petites étoiles poudrées et des sapins d'argent, une demi-dinde farcie, truffée, à surgeler? Pourquoi toujours le samedi? Et pourquoi d'ailleurs faut-il toujours qu'on mange de la dinde à Noël? Je vous le demande, Jean-Luc, c'est fatigant. Et puis même quand je me dis, voilà, comme ça c'est tant pis, et que ça ralentit, ça discute, ça chipote, que ça s'agace, que ça dépasse, non mais pourquoi alors? Oui, ça me fait perdre patience. Oui, des fois, oui, je perds patience et ça me fait drôle, cette grimace de moi, là, énervée. Et là, je me dis, mais enfin, quoi? Pourquoi tu perds patience comme ça? C'est beau, la patience. Enfin, voyons, la pureté, la connaissance, la patience. Supportez-vous les uns les autres, d'ailleurs, avec patience, Éphésiens 4. Là, dans cette saison, nous patientons encore et à nouveau, là où nous attendons le récit émouvant de cette naissance, ce mystère de l'incarnation, ce désir ardent de l'envoi de Dieu pour l'humain, cette joie immense qu'annonce un ange, cette parole qui nous fait saisir et voir le divin. La patience, en fait, c'est pas juste être calme, c'est plus grand que ça. Apprenons, essayons. Soyons d'une persévérance et d'une patience à toute épreuve. Revêtons-nous d'humilité, de douceur et de patience. Oui, bon, considérons que la patience de notre Seigneur est notre salut. 2 Pierre 3, oui, mais qu'aurait fait Jésus au volant de sa voiture quand le feu d'un gros carrefour est en panne ou qu'une rame de RER est annoncée à quai mais ne vient jamais à quai? Combien de fois d'ailleurs il aurait pu en retourner une à ses disciples qui ne captaient jamais rien? Combien de fois, de millions de fois, il a dû avoir envie de les dégommer en hurlant « Là les gars, là vous commencez à me saouler, mais vraiment grave ». Eh bien non. Non, car notre Dieu sait à quel point la patience est une matière belle qui vraiment nous grandit et nous change. Alors c'est quoi la patience? Comment la patience peut-elle d'une façon nouvelle nous apprendre l'attente? L'attente patiente comme vraie sève de l'espérance de Noël. Disons ceci, avancer jour à jour dans ce temps de l'Avent en respirant intensément l'instant de ce qui est et se vit, en inspirant au-dedans de nous patiemment le rythme singulier que tu nous donnes à vivre, Seigneur. Patience, non féminin, aptitude à supporter les obstacles, les erreurs, les défaillances, les désillusions, les agacements, les douleurs par extension, disposition du cœur à savourer avec calme l'attente de ce qui se forme en nous comme désir, comme mouvement, comme destination. Car le temps de l'avant, c'est la respiration intérieure, priante et vivante et dansante, d'une vraie destination, non ? Allez, à la semaine prochaine.
Et merci Vincent Smetana. En effet, à la semaine prochaine. D'ailleurs, on a hâte, à vrai dire, de découvrir la suite. Mais on retient aussi la leçon, celle de la patience qui nous aidera, j'en suis sûr, à tenir jusqu'à dimanche prochain. Et je me tourne maintenant vers la pasteur Marie-Laure Fenet, notre invitée du jour. Bonjour Marie-Laure.
Bonjour Jean-Luc.
Alors ce premier dimanche de décembre, qui est aussi le deuxième de l'Avent, nous donne d'avoir en point de mire cette fête de Noël, qui, rappelons-le tout de même, nous sommes dans le service protestant, et d'abord la célébration de la naissance du Christ. C'est un peu de cela d'ailleurs que vous souhaitez nous parler ce matin, mais sous la perspective d'une émotion bien particulière, avec... En substance, cette question sous-jacente, peut-on être joyeux dans ces circonstances que nous traversons actuellement ?
Oui, voilà, je me suis posé la même question, savoir est-ce qu'il sera possible cette année de se souhaiter un joyeux Noël pour de vrai, sans faire une moue mitigée, cachée derrière nos masques.
Comme aujourd'hui, à la radio d'ailleurs.
Exactement. Alors, allons-nous réussir à passer un joyeux Noël dans cette ambiance morose qui gâche franchement la joie que fêter Noël nous procure habituellement ? Moi, je crois qu'on peut y arriver. Notre foi chrétienne est une foi joyeuse. Jésus nous le dit en Jean 15, verset 11. « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Dans la Bible, le mot « joie » est plusieurs fois mentionné dans le récit du premier Noël. Et pourtant, plusieurs événements n'étaient pas spécialement joyeux. Des plans de mariage contrariés pour Marie et Joseph, une grossesse surprise, pas d'endroit pour que Marie accouche, des savants qui se perdent, un roi manipulateur et cruel qui a peur pour son trône. Et si la joie dont parle la Bible était plus intense qu'une émotion gaie de bonne humeur, de bien-être ou de désir satisfait ? Et si la joie ne dépendait pas des circonstances, mais s'entendait plutôt comme une conviction profonde que Dieu est toujours en contrôle des situations et des détails de ma vie ? Alors pour ce Noël et le reste de l'année, je veux choisir la joie. Je veux choisir la joie comme la ferme assurance que Dieu s'occupe de tout, la pleine confiance que toutes choses vont concourir à mon bien. D'ailleurs, la joie est bien encadrée en Galates chapitre 5, verset 22, par l'amour et la paix. Je veux vivre cette joie, embrassée par l'amour de Dieu et la paix que Jésus seul peut donner. Cela serait incroyable de ressentir de la joie tout le temps, de se réjouir en tout temps, non ? Mais il existe malheureusement des pièges qui engloutissent notre joie, des pièges qui se présentent à nous à tout moment.
Alors vous voulez dire par là sans doute qu'il existerait des « voleurs de joie » entre guillemets, qu'il nous faut essayer de repérer ?
Oui, dans le récit biblique de la naissance de Jésus, on peut en identifier au moins trois, avec leur antidote. Le premier piège, c'est l'inquiétude et la peur. Marie n'était qu'une adolescente encore vierge, mais enceinte, fiancée à un homme bon qui ne voulait pas faire de scandale. Mais il savait bien que c'était pas lui le père. Beaucoup de sujets d'inquiétude et de peur pour cette jeune fille, mais Marie a choisi de faire confiance à Dieu et d'accepter le plan que Dieu avait pour elle. Lisons le texte dans Luc, chapitre 1, versets 26 à 38.
Le sixième mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. » Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera le fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi comme le fut David son ancêtre et il règnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint. On l'appellera Fils de Dieu. » Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle qu'on disait stérile, en est maintenant à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. » Et l'ange la quitta.
Pas besoin de chercher bien loin ce qui nous remplit d'inquiétude, ce qui nous fait peur, ce qui nous empêche peut-être de dormir ou nous réveille en pleine nuit. Cette pandémie est anxiogène, les conséquences de cette pandémie sont anxiogènes, et bien d'autres sujets encore personnels.
Oui, tout à fait. On est tous confrontés d'ailleurs à ce genre de choses. Mais vous nous disiez que le texte propose un antidote miracle, et je trouve ça quand même rassurant.
Ah oui, alors l'antidote de Marie se trouve dans le verset 38 de ce chapitre 1 de Luc. « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » En d'autres mots, Dieu, cette situation me dépasse, mais toi, tu es plus grand que tout. Je t'appartiens, je te fais confiance, je te suis, j'accepte tes plans. Vous avez déjà fait cette prière et parlé à Dieu de cette manière. Dieu, je ne comprends pas tout ce que tu as choisi pour moi, mais moi, je choisis de te faire confiance complètement. Et vous savez quel est le résultat de cette prière ? La joie. Écoutez la réaction de Marie au verset 46 et 47. De tout mon être, je dirai la grandeur du Seigneur. Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu, mon Sauveur. On connaît plutôt la traduction, peut-être Louis II, qui dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Se réjouir en Dieu, déborder de joie à cause de Dieu. Deuxième piège qui veut happer notre joie, c'est la blessure et l'amertume ou la colère. On ne peut pas être amer et joyeux en même temps. L'amertume vient souvent d'une blessure, d'une offense. Nous avons été blessés par des mots durs et humiliants qui remontent souvent à l'enfance, blessés par des abus, des trahisons, des injustices, des mauvais traitements. Et le résultat de ces blessures provoque de l'amertume, du cynisme ou de la colère qui emplit notre cœur. L'amertume tue la joie. Revenons à l'histoire du premier Noël. Essayons de nous mettre à la place de Joseph. Qu'a-t-il ressenti au moment où il apprend que sa future femme est enceinte, la femme qu'il aime, avec qui il n'a jamais eu de relation sexuelle ? Cet homme avait toutes les raisons d'être blessé par cette forme de trahison, ce qu'il croit être de l'infidélité. Mais il ne cherche pas la vengeance, ni à faire appliquer à Marie la punition que la loi imposerait dans une telle situation. Il ne semble pas céder à l'amertume. Il choisit de lâcher prise à cette offense.
C'est donc ça l'antidote que Joseph expérimente contre l'amertume ou la colère provoquée par la blessure. Si je vous comprends bien, donc, lâcher l'offense.
C'est cela, lâcher l'offense. Ne pas chercher la vengeance ou la rétribution qui peut-être soulagerait la blessure. L'amertume est l'émotion qui nous détruit de l'intérieur et ajoute de la souffrance à la souffrance. Il faut lâcher l'offense. Si on y reste accroché, cela ne va rien changer pour l'auteur de la blessure, mais pour nous, c'est comme une double peine. Si vous lâchez, vous vous libérez vous-même. Et Dieu est avec vous pour vous accompagner. On peut lire cela dans Matthieu 1, versets 18 et 19. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Joseph était un homme droit. Il n'a pas cherché à exposer Marie publiquement à une disgrâce qui aurait même pu lui coûter la vie. Il veut discrètement rompre leur engagement. il prend encore soin d'elle. Lâcher l'offense, sans vengeance, apporte un certain apaisement et dispose le cœur à recevoir la guérison de la part de Dieu. Dans le cas de Joseph, lâcher l'offense a disposé son cœur à recevoir la révélation de Dieu, à comprendre les circonstances. Après que Joseph décide de lâcher l'offense, écoutez ce qui se passe en Matthieu 1, versets 20 et 21. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Comme il y pensait. Il pensait à répudier Marie secrètement sans l'exposer, à lâcher l'offense de ce qui semblait être une infidélité. Dieu lui envoie un ange pour lui expliquer la situation. Marie ne lui a pas été infidèle et Joseph va avoir le privilège d'élever le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. La joie n'est pas dite dans le texte biblique, mais on imagine aisément que Joseph vit un soulagement qui soulève son cœur de joie. Choisissons de lâcher l'offense. De cette manière, nous laissons Dieu nous apporter l'apaisement dans un premier temps, puis la guérison, sa justice et le rétablissement.
Sur France Culture, dans le service protestant, ce deuxième dimanche de l'Avent, la pasteur Marie Lorfenet nous parle de joie, et plus précisément de ce qui peut nous ravir cette émotion. Nous avons vu qu'il pouvait s'agir donc de l'inquiétude, de la peur, également parfois les blessures et l'amertume qui l'accompagnent bien souvent. Et maintenant donc...
Il y a un troisième piège qui engloutit notre joie, c'est la confusion. Nous l'avons vécu ces derniers mois, la confusion nous fait perdre toute joie. Quand nous ne savons plus ce que nous devons faire ou ne pas faire, quand nous doutons, quand nous faisons marche arrière après avoir pris une décision, bref, faute de direction claire, nous nous épuisons. Lors du premier Noël, des savants venus d'Orient s'étaient mis en route parce qu'une étoile avait attiré leur attention d'astronomes. Ils cherchent le roi des Juifs qui vient de naître. Ce sont des chercheurs de Dieu. Ils n'ont pas vraiment d'autres informations et se retrouvent à Jérusalem pour demander leur route. On peut lire l'histoire de ces savants venus d'Orient en Matthieu 2, versets 1 à 12.
Après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres et les spécialistes des Écritures et leur demanda où le Christ devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir écouté le roi, ils partirent et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta.
La démarche de ces savants me fait penser au discours de Paul aux Athéniens en Actes 17-27. Qui dit que Dieu invite les hommes à le chercher. Il veut que les hommes s'efforcent de le découvrir, comme à tâtons, et qu'ils essaient d'entrer en contact avec lui, car en réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. Ces hommes cherchent Dieu. L'antidote de la confusion pour nos savants, c'est de continuer leur route, sans carte, comme à tâtons, sans autre indication que cette lumière qui les guide dans le ciel. Des intellectuels qui cherchent Dieu et se laissent éclairer par une étoile mobile. Une lumière sur leur sentier, Pas après pas, nous sommes éclairés sur ce chemin qui mène à Jésus, notre Sauveur. Sa parole est une lampe à nos pieds. Au verset 10, il est dit qu'en la voyant, l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays.
Alors c'est la fête là, il y a de la joie comme dit la chanson.
Oui, encore des gens joyeux, remplis même d'une très grande joie. Ils rencontrent Jésus et tombent à genoux. Ces hommes ne comprenaient pas tout, ils cherchaient leur direction, bref, ils étaient confus. Comme antidote à ce flou, ils se laissent éclairer pas après pas et arrivent à destination. Ce qui les remplit d'une très grande joie. Pour trouver Jésus devant qui ils s'agenouillent en une position d'humilité, devant le Dieu fait homme, tout petit bébé. Et il lui offre des trésors. Quand on rencontre le Sauveur, on lui donne nos trésors. Voulez-vous choisir la joie pour cette fin d'année ? L'inquiétude et la peur, les blessures et l'amertume, la confusion l'ont peut-être englouti. Écoutez ce que les anges disent aux bergers cette nuit de Noël en Luc chapitre 2 versets 10 à 14. « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. » Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Nous avions besoin d'un sauveur pour nos vies, Jésus est venu. C'est cette belle et bonne nouvelle qui déclenche une joie qui ne dépend pas des circonstances.
Merci beaucoup, pasteur Marie-Laure Fenet, pour ce rappel de cette bonne nouvelle et de la joie qui lui est associée. Avant de se quitter, seriez-vous d'accord peut-être de nous conduire dans une prière ?
Bien sûr. Dieu, je veux vivre une vie remplie de joie. Je ne veux pas juste survivre. J'ai peut-être laissé l'inquiétude et la peur, les blessures, l'amertume, la confusion voler ma joie. Alors comme Marie, je choisis de te faire confiance et j'accepte ton plan pour ma vie. Je ne comprends pas tout, mais je veux trouver ma joie en toi. Comme Joseph, j'ai besoin que tu me remplisses de ta grâce pour lâcher ma blessure. Je veux que la joie du Seigneur soit ma force. Et comme les savants venus d'Orient, je veux suivre ta lumière, pas après pas, me laisser guider par ta parole et ton esprit. Jésus, sois mon sauveur. Comme le psalmiste David dans le psaume 51, verset 14, je crie à toi. Rends-moi la joie d'être sauvé. Je veux retrouver la joie de mon salut. Amen.
Nous voici arrivés au terme du service protestant sur France Culture proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Anne-Laure Chanel et avec Cédric Chatelus à la prise de son. Cette émission où nous avons pu écouter Marie-Laure Fenet, pasteur de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France à Sartrouville en région parisienne, est à écouter et podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Elle est aussi disponible également sur le site protestant-au-pluriel.org. Et pour nous écrire, une adresse, service protestant, 47 rue Clichy, 75 009 Paris, ou par courriel, communication@fédérationprotestante.org. Très bonne journée où j'espère la joie pourra vous accompagner encore et encore. Je vous retrouve tout de suite pour Culture Protestante. Thank you.